Vous écoutez Radio France Internationale, il est 00h30 à Washington, 6h30 à Paris et à Pretoria. Et bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal ce matin, le soulagement a teinté d'inquiétude de nombreux pays africains.
Après le revirement de Donald Trump sur les droits de douane et la suspension pour 3 mois de la plupart de hausses de taxes, nous serons en Afrique du Sud. Pretoria qui exporte notamment des agrumes et des voitures. Dans ce journal également, la justice des États-Unis qui poursuit les citoyens américains condamnés en RDC pour la tentative de coup d'État à Kinshasa l'an dernier. Le Gabon, un reportage à Libreville, c'est aujourd'hui le dernier jour de la campagne électorale avant la présidentielle demain. La Guinée, avec cette décision moyennement appréciée à Conakry, les autorités de la transition annoncent que c'est le ministère de l'administration territoriale qui se chargera d'organiser les prochaines élections et non plus une commission électorale. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports, Antoine Grenier viendra nous parler football, Ligue Europa et Cannes des moins de 17 ans. On souffle et on pense à la suite. Voilà globalement la réaction des pays les plus directement concernés en Afrique après le revirement de Donald Trump sur l'augmentation des droits de douane. Le Lesotho, l'île Maurice, Madagascar pour le textile et la vanille malgache disent pour le moment au revoir à des taux de taxation de plus de 40%. Mais dans ces pays aussi, on estime que l'incertitude créée par la volatilité du président américain n'est pas bonne pour les affaires. C'est le cas également, par exemple, en Afrique du Sud. Pretoria échappe donc à 30% de taxes, notamment pour ses agrumes. Mais ses voitures, elles, restent pour le moment soumises à des droits de douane à hauteur de 25% à Johannesburg. Claire Bargelès.
Le pays reste, comme les autres, touché par un taux mondial de 10%, ce qui annule les bénéfices de l'AGOA, la loi qui permettait au continent africain d'exporter certains produits vers les États-Unis sans droits de douane. Mais la suspension du taux de 30% est une bonne nouvelle, notamment pour le secteur des agrumes, dont l'Afrique du Sud est le deuxième exportateur mondial. Boitsoko Tsabele est le PDG de l'Association des producteurs.
On ressent un certain soulagement, surtout que tout cela tombait sur la semaine où on commençait à emballer et exporter les fruits vers les États-Unis. Nous faisons maintenant face à une hausse de 10% des taxes, soit la même chose que nos compétiteurs. Mais nous continuons à affirmer que l'Afrique du Sud devrait en être exemptée, car nos exportations tombent hors saison par rapport à la production d'agrumes aux États-Unis.
Autre secteur qui reste sur le qui-vive dans le pays, l'automobile, puisque la surtaxe mondiale de 25% est pour l'instant toujours en place. Plus globalement, l'incertitude qui prévaut est mauvaise pour l'économie, selon Ayabonga Tkawe de la Commission sud-africaine d'administration du commerce extérieur.
L'incertitude amène un degré de réticence à prendre des décisions pour investir du capital afin de construire des usines ou de faire toutes les choses qui permettent de créer des emplois. Et pour nous, c'est une grande source d'inquiétude, mais nous ne sommes pas seuls face à cela. Ce n'est pas un problème qui touche uniquement l'Afrique du Sud.
Le gouvernement sud-africain souhaite continuer à négocier de nouveaux accords tarifaires avec les États-Unis, tout en entreprenant la recherche d'autres marchés. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Les États-Unis, où sont arrivés les 3 ressortissants américains condamnés par la justice congolaise pour l'attaque l'an dernier à Kinshasa, du domicile de Vital Kamerhe et du Palais de la Nation, des faits considérés comme une tentative de coup d'État qui leur valent aussi désormais des poursuites judiciaires aux États-Unis. Et ce n'est plus à 3 hommes, mais à 4 que s'intéresse la justice américaine. Paulina Zidi.
Une plainte a été déposée par les États-Unis d'Amérique à l'encontre de Marcel Malanga, Tyler Thompson, Benjamin Zalman et Joseph Peter Moser. Ce dernier apparaît pour la première fois dans ce dossier. L'homme a été arrêté aux États-Unis. Selon les éléments qui apparaissent, il n'était pas sur les lieux des attaques, mais il serait le spécialiste des explosifs du groupe. Les 4 hommes auraient notamment essayé de modifier des drones civils pour les transformer en drones explosifs. C'est ce qui ressort du document de 82 pages publié par la justice américaine qui reprend l'enquête du FBI. Cette enquête revient sur les préparatifs supposés de l'action du 19 mai aux États-Unis, achat de matériel, entraînement. Elle revient aussi sur leur parcours à Kinshasa les jours qui ont précédé l'attaque, avec la visite du Palais de la Nation, considéré par les enquêteurs comme des repérages. Pour les enquêteurs du FBI, le commando voulait renverser le pouvoir et installer Christian Malanga à la tête d'un pays baptisé Nouveau Zaïre. Christian Malanga, père de Marcel, a été tué lors de l'intervention des forces de l'ordre le 19 mai. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Et pour ces chefs d'accusation, ces quatre hommes encourent tous les quatre la réclusion à perpétuité. Lui, c'est la peine de mort qu'il risque en Tanzanie. Le chef du parti d'opposition de Chadema, Tundu Lissu, accusé de trahison et de publication de fausses informations, officiellement inculpé hier après son arrestation la veille, en compagnie d'autres militants de son parti à l'issue d'un meeting. La Tanzanie, où l'accusation de trahison ne donne pas droit à une libération sous caution. Et la Tanzanie également, qui doit voter pour son élection présidentielle à la fin de l'année. Au Cameroun, un poste de police a été attaqué avant-hier en plein jour par des hommes à moto. C'était à Bamenda, la capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, précisément au quartier Bamenda 2. Un policier a été tué, un autre blessé grièvement. Dans ce même quartier, où dimanche, plusieurs corps sans vie ont été retrouvés, portant des traces de balles. Selon plusieurs sources, ce sont des combattants séparatistes anglophones tués et laissés là par les forces gouvernementales. Pas de communication officielle pour le moment à ce sujet. La campagne jusqu'au bout au Gabon. C'est demain que l'on vote pour l'élection présidentielle qui doit mettre fin à la période de transition. Et c'est ce soir que se referme officiellement la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est une journée fériée au Gabon pour permettre aux Gabonais qui habitent loin de leur bureau de vote de s'y rendre. Journée de répit aussi pour le président candidat, le général Oligui. Après deux meetings à Libreville hier, les sept autres candidats, eux, lancent leur dernière force dans la bataille. Sur place, François Mazé.
Exit le programme original qui prévoyait un grand meeting de clôture cet après-midi. La campagne C'est bon, qui joue sur les initiales du chef de la transition, a préféré offrir une double ration de son candidat aux habitants de la capitale jeudi. D'abord à Ovendo, puis boulevard Bessieux dans la soirée, devant une large foule convoyée par des nuées de bus pour l'occasion. C'est là qu'Ali Bongo avait conclu sa campagne il y a deux ans. Là aussi qu'auparavant, André Mbaobam et Jean Ping avaient mobilisé contre le pouvoir dans le sprint final. Si le président de la transition a moins fait le show que lors de ses dernières sorties en province, la tournure exubérante d'une campagne qu'il écrase par l'asymétrie des moyens engagés lui vaut des critiques de ceux qui y voient un copier-coller de l'époque Bongo PDG. Alain-Claude Bilibinzé, pour sa part, termine à domicile dans sa province, Logoué-Ivindo, dans le nord-est du pays. Quant aux six autres candidats, ils vont tenter aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute, de grappiller des votes en organisant des réunions publiques. François Mazé, Libreville, RFI.
Et comme au Gabon, en Guinée, l'année 2025 doit être une année électorale post-coup d'État. Première étape, c'est le référendum constitutionnel au mois de septembre, normalement. Et comme au Gabon, ce n'est plus une commission électorale qui s'occupera d'organiser les scrutins, mais un ministère, en l'occurrence celui de l'administration du territoire et de la décentralisation, annonce cette semaine des autorités de la transition à Conakry, dénoncé par plusieurs partis politiques et guinéens. Ils estiment que la CENI, la commission électorale, était plus impartial. Correspondance de Tanguy Billan.
L'annonce a été faite mercredi lors d'une conférence de presse organisée par Djenabou Touré, la directrice nationale chargée des affaires politiques et de l'administration électorale au sein du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle a ajouté que les autorités de transition mettront en place un observatoire au sein duquel des représentants des partis politiques et de la société civile pourront contrôler et superviser les actions du ministère. Selon Djenabou Touré, toujours, cette décision suit les recommandations du dialogue politique interguinéen mené en 2022 mais boycotté par les principales formations politiques du pays. Les autorités de transition n'ont jamais fait mystère de leur scepticisme vis-à-vis de la CENI. Plusieurs responsables ont déclaré ces derniers mois qu'elle était trop coûteuse et source de crise électorale. Les réactions à cette annonce n'ont pas tardé. Des responsables de l'UFDG de Sélood Alain Diallo et de l'UFR de Sidya Touré, deux des principales formations politiques du pays, estiment cette décision illégale et réclament le rétablissement de la CENI, jugée mieux placée pour organiser des élections libres et transparentes. Tanguy Billan, Conakry, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également la Côte d'Ivoire, les syndicats de l'enseignement appellent à la reprise du travail après une semaine de grève pour tenter d'obtenir le paiement d'une prime et après la reprise du dialogue entre le gouvernement ivoirien et les représentants des enseignants avant-hier. Au Soudan du Sud, l'ONG Human Rights Watch assure que l'armée a tué au moins une soixantaine de personnes le mois dernier en utilisant des bombes incendiaires improvisées dans le nord-est du pays, là où les soldats sud-soudanais Soudanais ont affronté une milice proche du vice-président et opposant Riek Machar. Le Soudan du Sud également, où le président a limogé son ministre des Affaires étrangères, raison invoquée. La brouille désormais résolue avec Washington après que Djouba, un temps, a refusé de recevoir sur son territoire un Congolais expulsé des États-Unis et des États-Unis qui avaient alors menacé de révoquer tous les visas accordés aux Sud-Soudanais. Et puis avant les sports, dans une minute, de la musique au Cap-Vert ce matin où cette deuxième semaine d'avril est résolument musicale avec l'Atlantic Music Expo depuis lundi et le Creole Jazz Festival ce week-end. Ce sont des concerts tous les jours. Et notre envoyé spécial, Guillaume Thibault, nous fait découvrir ce matin le chanteur haïtien Vox Sambou.
Tout le monde dormit dans moi, c'est le moins qu'à bâtir.
Rire, sourire et partager. Vox Sambou, Robin Spall à l'état civil, c'est de l'énergie pure, un optimisme infini et un amour pour la musique né grâce à une cassette de reggae.
Night Nurse.
J'écoutais ça parce qu'il jouait au foot, j'étais super jeune et puis il y avait Rastaman qui passait avec une radio et puis les piles ça finissait et puis ça allait doucement. Nightless. Je pense que c'est ça qui a déclenché mon amour pour la musique.
Vox Sambou est en perpétuelle réflexion, notamment sur les tragédies qui touchent Haïti et pour continuer à avancer, il a son médicament.
Mais c'est ça, l'humour, je pense que c'est naturel en nous. C'est-à-dire, on peut être en train de pleurer, en train de rire en même temps. On fait des blagues, on regarde. Je pense que c'est ça qui nous garde en vie.
Innocent.
Musicien puissant et attachant, que l'on a envie d'écouter sans fin, Vox Sambou défend l'identité de son pays chéri, Haïti, le regard toujours tourné vers l'Afrique.
On est africain. C'est-à-dire, tu peux ne pas l'accepter. Moi, pour moi, j'essaye toujours de comprendre pourquoi Haïti est dans cette situation-là. Moi, tous les Haïtiens et Haïtiennes que je connais, on veut vivre en paix.
Guillaume Thibault, Praia, RFI.
À Praia, au Cap-Vert, il est 3h42.
Afrique Matin sur RFI.
6h42 ici à Paris, à suivre dans Afrique Matin. Reportage au Gabon, à Libreville. Un autre envoyé spécial a rencontré des familles de victimes de violences post-électorales de 2016. À la veille de la nouvelle présidentielle, elles attendent toujours justice. Quel avenir pour le secteur de la noix de cajou en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens en sont les premiers producteurs à l'échelle de la planète. Mais ce que veut le gouvernement désormais, c'est de réussir à transformer cette noix sur place. Et puis notre invitée, la directrice de l'ONG, Redac. Elle déplore une détérioration de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Et le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale en fait également les frais. Mais tout de suite, les sports. Avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Du football, la Ligue Europa en Europe donc. Suspense garanti dans les différents quarts de finale.
Puisqu'à l'aller, 3 matchs nuls en 4 rencontres. Seuls les Norvégiens de Bodø/Glimt ont créé la surprise en prenant un petit avantage sur la Lazio de Rome avec une victoire 2-0. Dans les autres rencontres, Lyon a arraché le nul de partout face à Manchester United. Égalisation de Ryan Cherki à la dernière minute du temps additionnel. Un but précieux qui motive le joueur formé à l'OL avant le match retour la semaine prochaine.
Je pense qu'on mérite encore mieux que le match nul. On a fait un gros match, on a bien respecté les consignes du coach. Maintenant on sait qu'un quart de finale c'est un match aller, un match retour. On va aller là-bas pour gagner et rien d'autre. Quand on voit qu'ils viennent avec deux milieux défensifs, c'est qu'ils nous craignent particulièrement. J'espère que là-bas ils ne vont pas faire la même chose parce que nous on va y aller pour jouer offensivement et pour prouver qu'on a un très bon football et avoir une seule idée en tête, la victoire.
Ryan Cherki chez nos confrères de Canal+. Match nul également entre les Glasgow Rangers et l'Athletic Bilbao 0-0 pendant que l'Eintracht Francfort est allé chercher le nul un partout sur la pelouse de Tottenham.
Au Cameroun, Antoine, Samuel Eto'o dément le départ de son directeur de cabinet.
Annoncé partant, Camille Loé est toujours à la FECA Foot, a fait savoir à RFI le président de la fédération camerounaise. De nombreuses rumeurs sans fondement circulent sur les réseaux sociaux à longueur de journée pour nous déstabiliser, a-t-il précisé. Le directeur de cabinet toujours en fonction. Donc, alors que ces derniers mois, plusieurs cadres de la FECA Foot ont quitté l'instance, à l'image fin janvier de Benjamin Pondy, le directeur de la communication, ou plus récemment du secrétaire général adjoint Benoît Angbois.
Et on termine avec les quarts de finale de la CAN U17 et avec un Burkina Faso et un Maroc impressionnants.
Les étalons U17 d'abord en démonstration face à des Zambiens qui n'ont pas fait illusion très longtemps. À la mi-temps, les Burkinabés menaient 2-1, mais la seconde période est allée entièrement dans leur sens avec un succès final 6-1. Au passage, un triplé d'Achraf Lukman Tapsoba, le Burkina en demi-finale, tout comme le Maroc qui a dominé l'Afrique du Sud 3-1. Les Marocains affronteront en demi le vainqueur de la confrontation entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, larges vainqueurs de la Centrafrique et du Mali en poule, et donc en confiance avant d'affronter les tenants du titre. D'autant plus qu'ils ont atteint leur objectif, la qualification pour la Coupe du Monde en fin d'année. Le Sénégal s'annonce donc comme un match bonus pour le sélectionneur ivoirien Bassirikhi Diabaté.
Jouer le tenant du titre est très très intéressant dans la mesure où on a une opportunité d'affronter un mondialiste. Après le sacre, le Sénégal a représenté l'Afrique au mondial. Le Sénégal, pour moi, est l'une des meilleures équipes de cette compétition. C'est pour nous une occasion d'essayer de lever notre niveau de jeu face à un grand, une très belle équipe. Mais pour nous, je vais vous dire, l'objectif majeur, c'était de prendre l'un des 10 tickets pour le mondial. Et objectif atteint, tout ce qui arrive aujourd'hui est du bonus. L'opportunité même de jouer le champion en titre vaut son pesant d'or. Au-delà de tout enjeu, pour nous, ce match seul suffit.
Côte d'Ivoire-Sénégal, coup d'envoi 16h, temps universel. Le dernier quart de finale de cette CAN U17 opposera à 19h TU la Tunisie au Mali.
Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce vendredi 11 avril, ce sont les bourses mondiales à nouveau à la baisse. Aux États-Unis, le Dow Jones a perdu 2,5%, le Nasdaq 4,31% hier soir. Ce matin, c'est Tokyo qui rechute, moins 3,64%. Tout cela est le signe de l'incertitude qui règne autour de la guerre commerciale déclenchée par l'administration américaine. Pour rappel, les droits de douane réclamés par les États-Unis ont augmenté de 10% pour quasiment tous les pays du monde. Et la hausse supplémentaire annoncée est mise sur pause pendant 3 mois. Place désormais à la négociation bilatérale avec Washington. Nous serons dans un quart d'heure en direct avec notre correspondante à Pékin, puisque c'est avec la Chine que la situation ne s'améliore pas. Chacun y va de sa surenchère. La Maison-Blanche annonce que les surtaxes visant Pékin vont finalement atteindre un niveau vertigineux de 145%. Et Pékin, de son côté, va réduire modérément le nombre de films américains diffusés sur son territoire. Nouvelle mesure de rétorsion après les 84% de nouveaux droits de douane. Au Gabon, c'est une campagne qui s'est déroulée dans le calme, qui s'achève donc aujourd'hui avant l'élection présidentielle de demain. Le Gabon, ou à l'inverse, les précédentes élections ont souvent été marquées par des crises. Ça a été le cas notamment en 2016, après l'annonce de la réélection extrêmement contestée d'Ali Bongo face à Jinping. Des violences dont le bilan clair n'a jamais été établi, mais qui ont fait au moins plusieurs dizaines de morts. Au moment du coup d'État qui a renversé Ali Bongo en 2023, les familles des victimes avaient espéré la fin de l'omerta sur ce sujet. Aujourd'hui, le dossier n'a pas encore été rouvert et le collectif fondé après le coup d'État s'est mué en association pour tenter d'obtenir des avancées de la part du prochain président gabonais. Et à Libreville, notre envoyé spécial François Mazé a rencontré ses familles.
Moi, tout de suite, j'ai dit oui, parce qu'on espère. On veut faire le deuil. Le deuil n'a pas encore été fait.
Chacun a mis un peu de sa poche pour louer un modeste bureau dans le quartier Dragon. Sur la bâche de l'association Réconciliation, Hortense Mengemessa, la trésorière, montre le corps inerte d'Axel, son petit frère, recouvert d'un drapeau gabonais.
Il a voulu voir ce qui se passait dehors. Parce qu'il a dit à son grand frère, n'ayez pas peur comme la grande. Il a reçu 2 balles. C'était devant la porte. Ils ont eu le temps de retirer le corps, de le cacher dans la maison. Aujourd'hui, je peux vous dire que tous les enfants qui sont décédés cette nuit-là, à cet endroit, jusqu'à l'heure où on nous parle, les parents n'ont pas encore retrouvé les corps.
Le fils de César Mavioga, Freddy, a reçu 2 balles alors qu'il était au portail du domicile familial. Malgré un rapport d'autopsie, la justice a refusé sa plainte. Aucune enquête n'a été menée. Il déplore une situation qui n'évolue pas.
Les militaires ont tiré délibérément sur mon fils qui était chez nous. Il est mort dans la voiture. C'était difficile de l'amener à l'hôpital. Il y avait des barrages partout. Il y a l'omerta. Celui qui détient l'armée, qui est militaire, parce que ce sont les militaires qui ont tué, il ne nous a pas reçus. Il sait ce qui s'est passé. Il est le chef, donc il a toutes les archives. Il n'y a rien qui l'échappe.
Même frustration chez Aïcha Claudine Soumbou, qui avait soigné des blessés et témoigné de mort au QG du candidat Jinping. Après des années d'exil, elle préside aujourd'hui l'association qui demande la mise en place d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation.
Du moment où nous avons respecté nos autorités en allant adresser des courriers aux instances, à la Cour constitutionnelle, au Sénat, à l'Assemblée, à la primature, à la présidence, au Conseil économique et social et même à l'archevêque, et que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui vivent difficilement. Donc on se sent vraiment délaissé, on se sent vraiment abandonné et c'est frustrant.
Brice Clotaire-Oligingema a promis que la justice passerait une fois la transition terminée. Ceux qui attendent la vérité sur les parents disparus doivent la voir. Ceux qui la détiennent doivent pouvoir la partager, nous assure sa porte-parole Laurence Dong. Son principal adversaire, Alain-Claude Bilibinzé, a repris l'idée d'une commission. Mais les victimes s'interrogent sur la sincérité de celui qui était alors le porte-parole du gouvernement. François Mazet, Libreville, RFI.
Et à l'international.
Et demain, le reportage Afrique à la même heure sera en Afrique du Sud à l'occasion de la réouverture de la bibliothèque municipale de Johannesburg après 5 ans de fermeture. Afrique économie en Côte d'Ivoire ce matin. On s'intéresse au secteur de la noix de cajou, un produit dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Et aujourd'hui, l'un des défis, c'est de réussir à transformer localement cette noix de cajou brute. Soutenu par le gouvernement, le secteur transforme aujourd'hui un peu moins d'un tiers et vise les 50% dans les prochaines années. Autre défi, ne plus produire que, entre guillemets, de simples noix de cajou, mais aussi des produits transformés. Reportage d'Abdoulaziz Diallo.
Dans l'usine Silagri Cajou à Vridi, les machines tournent à plein régime. Ici, la noix de cajou arrive brute avant d'être décortiquée, pelée, triée et conditionnée. En 2024, l'usine a produit 17 000 tonnes d'amandes de cajou. Mais derrière cette performance, un défi persistant, le coût de production. Cynthia Namoutier est la directrice générale de l'usine.
Le secteur de la noix de cajou a connu des turbulences en 2022 qui ont fait que les coûts de production qu'on avait ne nous permettaient pas de faire face aux coûts des amandes sur le marché. Donc une restructuration des équipements pour permettre de réduire les coûts de production était le seul moyen en fait de continuer à survivre.
Mais moderniser les outils ne suffit pas. Il faut aussi former les travailleurs pour piloter ces machines.
On a beaucoup de main-d'œuvre disponible, mais on a beaucoup de formations qu'il nous reste à faire encore pour faire en sorte que ces personnes que nous utilisons puissent avoir une connaissance plus poussée et nous permettre donc de conduire ces outils-là sans forcément avoir besoin de faire venir des expatriés pour nous aider à faire tourner nos usines.
Malgré ces défis, la transformation locale progresse. L'an dernier, le pays a exporté pas moins de 72 000 tonnes d'amandes et compte une quarantaine d'usines actives. Mais la transformation ne s'arrête pas aux amandes brutes. Un nouveau marché émerge, les produits dérivés. Marcel Ouattara, secrétaire exécutif du groupement des industriels du cajou en Côte d'Ivoire.
On a la transformation des noix qui donnent des amandes de cajou blanches qui sont utilisées par les acteurs de la deuxième transformation qui vont produire des pâtes de cajou, du lait de cajou. Aujourd'hui, on espère qu'on aura un changement dans les habitudes de consommation qui va permettre de pouvoir distribuer tous ces produits dérivés là localement.
Pour accélérer la transformation, le gouvernement multiplie les initiatives. Cette année, priorité aux transformateurs locaux pour l'approvisionnement, annonce le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani.
La faveur sera donnée aux transformateurs locaux de disposer de la noix de cajou. C'est après que nous allons ouvrir la possibilité d'acheter des noix de cajou en vue de leur exportation.
Autre coup de pouce, l'exonération des taxes sur les amandes transformées localement et les équipements importés. Avec ces mesures, la Côte d'Ivoire espère ne plus être seulement le premier producteur mondial, mais aussi un acteur clé de la transformation du cajou. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 4h54. 5h54 à Yaoundé. Et notre invitée Afrique ce matin, c'est la directrice exécutive du REDAC à 6 mois de l'élection présidentielle camerounaise. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale déplore le fait que le régime du président Paul Biya se durcisse contre les opposants, contre la société civile également. Et le REDAC en fait les frais puisqu'il est suspendu depuis le mois de décembre. Et ses dirigeants sont poursuivis par la justice. Maximilienne Gombe répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier.
J'avoue que depuis un moment, on assiste quand même à beaucoup de dureté de la part du gouvernement et du parti au pouvoir. Ils ne lésinent d'aucun moyen, menant la même base sur la justice, la même base sur la police, sur l'armée. Vous êtes filé tout le temps, vous êtes convoqué devant des juridictions. Le ministère de l'administration territoriale promet la prison à tout le monde. Il empêche même un député de se mouvoir pour, n'est-ce pas, expliquer son programme politique parce qu'il est candidat. Donc le même ministère est vraiment dans une posture de durcissement de l'espace civique au détriment, n'est-ce pas, de tout ce qu'on entend derrière qu'il nous faut des élections pacifiques. Voilà. C'est un décalage entre le langage et les faits sur le terrain.
Et ce durcissement, vous craignez qu'il s'intensifie à mesure qu'on va se rapprocher de la date du mois d'octobre prochain?
Bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, si rien n'est fait.
Et pourquoi?
Mais parce que le président Paul Biya, jusque-là, n'a pas dit qu'il va être candidat. Jusque-là, personne ne sait, mais on pense que ceux qui sont restés longtemps avec lui au pouvoir veulent absolument qu'il reste au pouvoir parce que cela leur permettait, n'est-ce pas, de ne pas te rendre compte. Et ceux-là qui sont au pouvoir et qui ont bénéficié de tous les privilèges et qui ont spolié les populations sont à la manœuvre pour ne pas laisser le président peut-être aller se reposer. Et je pense qu'ils vont durcir plus en plus l'espace. Et on attire l'attention, n'est-ce pas, des pays amis du Cameroun aujourd'hui. Donc, il est temps que la France joue son rôle aujourd'hui plus que jamais pour que cela cesse.
Entretien complet à écouter sur RFI dans trois quarts d'heure et sur RFI.fr. Et comme tous les vendredis, c'est le moment de la parlotte de Charlotte. Charlotte Ntamack, vous nous dites ce matin que contrairement à l'idée reçue, tous les Africains ne rêvent pas de vivre en Occident.
Oui, on croit à tort que tout le monde veut foutre le camp d'ici. Pourtant, si certains rêvent de Mbeng, il y a des s'en foutent de Mbeng pour qui, même sans être nantis, Mbeng ne fait pas du tout rêver. Quoi ? Partir vivre dans un pays où il fait plus froid que dans le frigo. Pardon, mieux je gère mes bières au calme au pays. Mako, si tout le monde part, qui va rester garder le pays? Mieux tu m'envoies les choses ici, moi je gère, non? Il y a des s'en foutent de Mbeng qui poussent le bouchon si loin qu'ils ne s'en foutent pas seulement de Mbeng, mais du Mbenguiste. Mako, je suis là, je suis arrivée hier. Tu es là, hein? Ok, bonne arrivée. Celle-ci croit que c'est moi qui vais aller la chercher parce qu'elle vient de Mbeng. Si elle ne vient pas me trouver dans mon taudis, qu'elle reste dans son hôtel. Les s'en foutent de Mbeng sont une espèce rare que les Mbenguistes eux-mêmes ont du mal à comprendre. Marie-Jo, donc tu es encore enceinte, hein? Je te dis que je vais te faire voyager. Toi, tu ne fais que pondre les enfants, hein? Tu vas donc toi-même t'occuper de toi et de ta marmaille. Junior, ton grand frère te dit que tu viennes poursuivre tes études. Tu dis que tu fais l'université ici, hein? Tout ça parce que j'apprends que tu signes derrière une fille. L'école là te sert même à quoi si tu ne veux pas réfléchir? Si les s'en foutent de Mbeng s'en foutent en réalité d'une réalité qu'ils ne connaissent pas, il y a d'autres prototypes qui ont quand même la chance d'y aller, mais se permettent de foutre aussitôt le camp de Mbeng. Gars, vrai, tu rentres là où c'est chaud au pays là. Ce sont des spécimens uniques, incompris des Mbenguistes, mais aussi des peuples autochtones de Mbeng. Bah, pourquoi tu t'installes pas? Bah oui, tu préfères vivre en Afrique? T'aimes pas quoi ici? La nourriture? Le climat? Les gens? Bah ça veut dire que tout roule alors très bien pour toi en Afrique. Le retour du s'en fout de Mbeng est l'erreur suprême pour les admirateurs, pardon, les adorateurs de Mbeng. Regarde-moi quelqu'un, celui-ci part en Mbeng et il revient qu'il compte sur quoi? Moi, si on me donne une seule seconde en Mbeng, on ne va pas leur dire. Mako, même quand tu me disais que tu revenais, est-ce que je croyais que j'allais encore te voir ici? Ce que nous on cherchait là, on ne trouve pas. Toi, tu blagues avec. C'est les visas que tu gâtes comme ça, Mako. Si certains sont prêts à payer le prix fort pour un Mbeng à tout prix, le s'en fout d'un Mbeng dit non en Mbeng et fait le choix de vivre ici, quelles que soient les conditions, même si c'est le prix à payer. À vendredi.
À vendredi prochain. Merci Charlotte Ntamack. Merci aussi à Pauline Berthélémy et à Vincent Dublanche qui étaient respectivement à la réalisation et à la rédaction en chef de cette édition d'Afrique Matin. Et si vous nous avez écoutés depuis le début, vous avez sans doute remarqué un petit problème technique au tout début donc de ce journal. Je m'en excuse et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes en intégralité sur notre application Pure Radio. Passez une excellente journée sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Si tu veux la paix, prépare la guerre, nous dit l'antique adage romain. Il faut créer une armée européenne, affirme l'ancien officier français Guillaume Ancel, tandis que l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau s'intéresse à l'expérience combattante à hauteur d'homme. Une approche intelligente, sensible, ou bien une banalisation du fait guerrier.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.